Il est 13h sur France Inter. C'est Anaïs Feugat qui nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. C'est l'horreur, il n'y a pas d'autre mot. Le témoignage dès le début de ce journal d'une infirmière au CHU de Fort-de-France en Martinique. La réanimation n'arrive plus à accueillir tous les malades du Covid. Les ministres des Outre-mer et de la Santé sont attendus sur place ce soir. Parmi les patients, des enfants, faut-il s'en inquiéter? Nous ferons le point avec notre spécialiste santé. En Israël, on instaure un pass sanitaire dès 3 ans. Pendant qu'à Amiens, un bus stationne dans un parc du centre-ville pour vacciner au plus près de la population. L'Afghanistan en plein chaos, où les talibans ne sont plus qu'à 150 km de Kaboul. Dans le sud du pays, un jeune général de 36 ans fait front à la tête de ses 20 000 hommes, déjà dépeint comme un héros. Le Parlement polonais adopte une nouvelle loi sur les médias. Les États-Unis s'en inquiètent. Et puis avant la météo, un tour au bord de l'eau près d'Orléans pour aller y chercher un peu de fraîcheur.
France Inter.
Ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer, abasourdi les soignants des Antilles devant l'afflux incessant des malades du Covid à l'hôpital. Au CHU de Guadeloupe, un patient ne peut désormais entrer en réanimation que si un autre libère une place, soit parce qu'il va mieux, soit parce qu'il est décédé. Il faudrait 100 places supplémentaires immédiatement, selon les autorités. En Martinique, les 55 lits de réanimation sont eux aussi occupés. Aux urgences, les malades s'entassent sur des brancards, parfois à l'extérieur du bâtiment. C'est ce qu'a vu l'envoyée spéciale de France Inter en Martinique, Faustine Calmel. Elle y a rencontré une soignante particulièrement éprouvée.
Les situations de crise, de tension, les catastrophes, Laura connaît, infirmière militaire au service des urgences à Nice en 2016. La jeune femme n'en revient toujours pas de la violence de cette quatrième vague.
Quand on parle d'une situation de guerre, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais que c'est vraiment ce qu'on vit à l'heure actuelle ici au CHU. C'est l'horreur. En fait, il n'y a pas d'autre mot de voir des gens qui ont 30 ans et qui décèdent. Des fois, on peut avoir le mari, la femme qui sont hospitalisés et les enfants qui se retrouvent à la maison et les parents qui décèdent. C'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit.
Elle raconte les morts les uns après les autres, les lits libérés par ces décès, mais toujours re-remplis. Le face-à-face aussi avec les familles de patients pour lesquels on n'a que peu d'espoir.
Et c'est difficile d'essayer de leur apporter tout notre soutien parce qu'on voit leur détresse et en fait, malheureusement, on est parfois complètement impuissant face à ça.
Quand elle rentre chez elle, Laura avoue ne plus avoir l'énergie de faire quoi que ce soit. Arrivée en Martinique il y a un peu plus de 2 ans, elle n'y a vécu quasiment que sous Covid.
Ce matin, sur France Inter, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est dit bouleversé par la situation qu'il voit sur place. Il est actuellement en Guadeloupe. On est déjà en train de préparer les renforts des renforts, ajoute le ministre. Une douzaine d'infirmières partent par ailleurs pour la Polynésie. Avec son collègue de la Santé, les deux ministres seront au CHU de Fort-de-France en fin de journée en Martinique. D'autant que des enfants sont également hospitalisés. Le professeur Gilles Pialou, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, tire la sonnette d'alarme. Il était l'invité d'Hélène Roussel dans le 6-9 ce matin.
C'est un vrai sujet dans le sujet, c'est-à-dire que les enfants, il y a une alerte internationale. Aux États-Unis, c'est 30% des contaminations chez les enfants. Ça s'est jamais vu dans les autres vagues. Et l'Académie américaine est en train de réclamer auprès de l'agence américaine, de la FDA, de pouvoir vacciner les plus petits, en les 5-11 ans. L'Académie italienne de pédiatrie, pareil. Ça ne veut pas dire que le variant Delta est plus agressif pour les enfants. Mais c'est un effet différentiel. Effectivement, très peu vont être hospitalisés. Il y a un phénomène aussi qu'il ne faut pas oublier. Quand vous avez des incidences comme en Guadeloupe, c'est une porte ouverte à la fabrication des variants. Donc on peut imaginer très bien qu'il y a un virus qui s'adapte aux plus jeunes.
Les enfants contaminés, faut-il donc s'en inquiéter? Véronique Julia, dans ce contexte d'épidémie qui s'emballe, que faut-il donc envisager pour les plus jeunes?
On le sait, les enfants sont beaucoup moins touchés par les formes sévères. En France, les hospitalisations ont concerné jusqu'à présent moins d'1% des moins de 18 ans. Mais forcément, plus il y a de contamination, plus le risque de complications peut augmenter. Si les chiffres flambent, on verra donc forcément plus d'enfants à l'hôpital. En France, la vaccination des 12-17 ans a commencé tard en juin, mais elle progresse vite. On est déjà à 50% de première dose. D'ici 3 semaines, pour la rentrée, la moitié au moins de ces adolescents aura donc un schéma vaccinal complet. Alors faut-il aller au-delà et attaquer la vaccination? vaccination dès 5 ans. Dans la mesure où le bénéfice individuel que les enfants peuvent en tirer est assez mince, pas sûr que les parents suivent, sujet délicat on va dire, mais pas totalement exclu. En France, les autorités sanitaires y réfléchissent et des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'effet des vaccins sur les plus jeunes avec des doses réduites. Avec le variant Delta, toute la question est de savoir le rôle que peuvent jouer les enfants dans la progression épidémique et donc le bénéfice collectif qu'on pourrait tirer de leur vaccination. Pas vraiment de données précises là-dessus, mais ce rôle n'est pas nul, on le sait. En Grande-Bretagne, il semblerait d'ailleurs que la décrue constatée il y a quelques semaines se soit produite juste après la fermeture des écoles.
Hier soir en Israël, les autorités ont annoncé qu'elles mettaient en place le pass sanitaire pour les enfants à partir de 3 ans. Le variant Delta provoque une forte hausse des contaminations dans l'État hébreu, pourtant l'un des premiers pays à avoir vacciné massivement. À Jérusalem, Alice Froussard.
À partir de mercredi prochain, pour entrer dans la majorité des lieux, institutions publiques, privées, tous les Israéliens âgés de 3 ans et plus devront avoir leur pass sanitaire. C'est-à-dire qu'ils devront prouver leur immunité, soit en étant vaccinés, soit en présentant un test Covid négatif, soit en prouvant qu'ils ont déjà été contaminés au virus et qu'ils ont des anticorps. Le gouvernement a aussi précisé que le dépistage serait pris en charge par l'État. Pour les enfants de 3 à 12 ans, leur test sera gratuit. Mais pour les personnes de plus de 12 ans, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent être vaccinés, les tests deviennent payants. Une manière d'inciter, voire d'obliger à la vaccination. Dans son allocution hier, le Premier ministre israélien a aussi limité les rassemblements à 50 personnes en intérieur, 100 en extérieur, et prévenu que la population devrait se préparer à l'injection d'une troisième dose de vaccin à partir de 45 ans. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
En Espagne, il n'y a pas de débat sur le pass sanitaire car ça vaccine à toute allure. L'Espagne, championne de la vaccination des grands pays européens, 61% des Espagnols sont complètement vaccinés, un taux bien meilleur qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ça s'explique par la grande confiance des Espagnols dans les vaccins. En France, où la pandémie a fait 112 000 morts, ce taux est de 56% de la population complètement vaccinée. La vaccination contre le coronavirus s'essouffle d'ailleurs. Début août, 3 600 000 doses ont été injectées en une semaine, le niveau le plus bas depuis la fin mai. Le coup de fouet après les annonces d'Emmanuel Macron mi-juillet est donc retombé comme un soufflet. Alors à Amiens, les sapeurs-pompiers vont chercher les candidats au plus près, en pleine ville. Un bus est présent tous les mercredis au Parc Saint-Pierre. Tout le monde peut se faire vacciner sans rendez-vous. Il suffit juste de sa carte vitale. Pauline Offray.
Ils sont une dizaine à patienter devant le bus au soleil.
Bonjour. C'est pour vous faire vacciner ?
La deuxième dose.
La deuxième dose, d'accord. Pas de souci. Et je vous laisserai remplir les 4 premières lignes ici.
Eugénie fait partie des premiers vaccinés du jour.
Bah, c'est pratique déjà parce qu'il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. On peut y aller quand on veut et puis j'en ai entendu parler.
Sur un siège à côté, Sarah a été prise de court après les annonces sur le pass sanitaire.
Je m'y suis prise un peu tard pour le vaccin et puis il n'y avait plus de rendez-vous disponible rapidement. Donc du coup, je suis allée au vaccinocar et puis il fallait juste attendre un petit peu. Mais comme ça, au moins, c'est fait et on est tranquille après. Moi, j'habite sur Amiens, donc c'est plus pratique pour moi aussi.
Teddy, lui, se fait vacciner pour son travail. C'est sa première injection.
Là, je suis en vacances et l'employeur veut qu'on soit vacciné, qu'on reprend le travail, quoi. Comme il fait beau, je suis venu à pied, je suis à une quarantaine de minutes à pied de marche. C'est plus pratique, oui. Mais sans rendez-vous, c'est mieux aussi. Oui.
Véronique s'est déjà fait vacciner au Parc Saint-Pierre en juillet. Aujourd'hui, elle accompagne ses deux enfants.
Toute ma famille sont venus ici, à Saint-Pierre, et pour faire les vaccins. Et ils m'ont dit, va là-bas, c'est bien. C'est pratique.
Le bus sera encore présent les mercredis 18 et 25 août au Parc Saint-Pierre.
Pauline Offray, France Bleu, Picardie pour France Inter. À l'autre bout du monde, Canberra, la capitale de l'Australie, confinée pour 7 jours. Les 400 000 habitants rejoignent les millions d'Australiens déjà contraints de rester chez eux. Et puis la Russie dépasse aujourd'hui les 800 morts quotidiens, un nombre de décès record depuis le début de la pandémie, dû au variant Delta et là aussi à la vaccination qui patine.
France Inter, le journal de 13h. Anaïs Feugat.
À Marseille, un mort et un blessé grave, deux hommes touchés par des tirs cette nuit, l'un dans un bar du quartier de la Belle de Mai, près du centre-ville, l'autre dans la rue 600 mètres plus loin. La France piétine-t-elle le droit en toute impunité? La défenseure des droits a été saisie par un collectif de soutien à de jeunes exilés. Après le renvoi, qu'il juge illégal, par avion au Sénégal, d'un mineur non accompagné, à qui l'État devait protection par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Vous nous expliquez.
Oui, une reconduite à la frontière en à peine 24 heures chrono. Le réseau Éducation sans frontières n'avait jamais vu ça. Ousmane est sénégalais. Il était arrivé en avril dernier par avion à Orly avec un vrai passeport, mais d'une personne majeure. La police aux frontières comprend l'astuce, finit par relâcher Ousmane, mais avec une saisine de la justice. Fin juillet, un juge reconnaît le statut de mineur non accompagné d'Ousmane. Il est placé, vous l'avez dit, sous protection de l'aide sociale à l'enfance, donc en principe non expulsable. Jusqu'à samedi dernier, arrestation porte de Clichy à Paris, délivrance par la préfecture de police d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Hervé Lecomte, l'un des responsables du réseau RESF, raconte comment, avec une collègue, ils ne se sont alors pas vraiment inquiétés ce jour-là.
Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, il va ressortir, et puis même s'il a une OQTF, d'abord ils vont pas lui mettre, parce qu'il est mineur et protégé, et même s'il en a une, on la contestera. Moi je lui ai dit, méfie-toi, parce que, bon, avec le durcissement actuel, je suis pas sûr. Et bon, quand le lendemain matin elle m'a appelé pour me dire qu'il était déjà dans l'avion, voilà, j'étais toujours surpris, à demi surpris, mais quand même choqué, parce que c'est quand même inédit. Ce qu'on constate, c'est qu'il a été arrêté suite à un contrôle d'identité à 17h environ le samedi. Et le lendemain matin, à 11h45, il était dans l'avion avec un test PCR pour s'assurer qu'il puisse bien prendre l'avion qui a été réalisé dans la soirée.
Le plus étrange, c'est que selon nos informations, il n'y aurait pour l'instant aucune trace du dossier d'Ousmane au niveau du service concerné à la préfecture de police de Paris. L'ONG RESF a saisi le juge qui avait prononcé la mise sous protection d'Ousmane auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Et puis au large du Kenya, sans doute un drame de la migration. 7 personnes qui étaient parties des Comores pour rejoindre Mayotte sont mortes de faim, parmi elles une femme enceinte. Ces membres d'une même famille avaient embarqué à 15 sur un bateau qui a rapidement perdu son hélice. Impuissants, ils ont vu leur embarcation dériver. Au lieu de mettre 2 jours, ils ont 22 jours dans l'océan Indien, poussés par le vent, à 1100 km de leur point de départ. Ils ont dû jeter par-dessus bord les corps des défunts et survivre en mangeant du poisson cru et en buvant de l'eau de mer. Les autorités kényanes les ont pris en charge. Les jours se suivent et se ressemblent en Afghanistan, avec désormais quasi quotidiennement une ville tombée aux mains des talibans qui se rapproche de la capitale, avec la prise ce matin de la ville stratégique de Ghazni, à 150 km de Kaboul. Un signal très inquiétant parce que cette ville est un verrou sur l'axe majeur entre les deux plus grandes villes, Kaboul et Kandahar. Dans le nord du pays, les forces de sécurité semblent démoralisées. Dans le sud, un jeune général galvanise les troupes, Sami Sadat, 36 ans. Son portrait avec Valérie Crova.
C'était il y a 2 jours. Sami Sadat parle face caméra et adresse ce message. Ne laissez pas vos fils rejoindre les talibans ou les autres groupes terroristes. Ils seront tués ou vous n'aurez jamais de nouvelles d'eux. Nous nous engageons à protéger notre peuple et nos villes. À 36 ans, ce jeune général a gagné sa réputation de héros en se battant jour et nuit pour empêcher la chute de Lashkargah, la capitale de la province du Helmand, assiégée par les talibans. C'est lui qui avait donné l'ordre aux habitants de sortir de la ville pour éviter les pertes civiles. Diplômé du prestigieux King's College de Londres, il est passé par plusieurs académies militaires en Europe et aux États-Unis. À son retour à Kaboul, Sami Sadat fait ses premières armes dans les services de renseignements afghans avant de prendre la tête du 215e régiment d'infanterie qu'il commandait depuis 11 mois. Sa parfaite maîtrise de la communication lui vaut une réelle popularité sur les réseaux sociaux. À la question d'un journaliste qui lui demande si les talibans peuvent gagner, sa réponse est catégorique, absolument pas, personne ne gagne contre la liberté.
Et la France a annoncé ce matin avoir suspendu dès le mois de juillet les expulsions de migrants vers l'Afghanistan. À l'instant, à Doha, les négociateurs sur l'Afghanistan proposent aux talibans un partage du pouvoir en échange d'un arrêt des violences. Ce matin, l'Allemagne a menacé de cesser ses aides financières à l'Afghanistan si les talibans reviennent au pouvoir. À Gaza, l'ONG Human Rights Watch accuse les groupes armés palestiniens de crimes de guerre. Lors de la guerre au mois de mai contre Israël, les roquettes tirées depuis la bande de Gaza ne disposaient pas de système de guidage. Elles sont donc imprécises lorsqu'elles sont tirées vers des zones habitées. Fin juillet, l'ONG avait déjà accusé cette fois Israël de crimes de guerre présumés. Les partenaires européens de la Pologne font part depuis longtemps de leurs préoccupations quant au respect de la démocratie dans le pays. Autour des États-Unis, de s'inquiéter ce matin d'une loi controversée adoptée hier par le Parlement conservateur, à tel point que le secrétaire d'État américain a pris la peine de s'exprimer publiquement. La loi, Éric Biegala, menace la liberté de la presse, selon l'opposition.
La loi menace surtout la première chaîne d'information du pays, TV24, volontiers critique du gouvernement et propriété du groupe américain Discovery, raison pour laquelle les États-Unis montent au créneau sur cette affaire. Le groupe TVN, qui détient TV24, c'est en effet l'investissement américain le plus important en Pologne. Le groupe détient une douzaine de chaînes, emploie 4200 personnes et il est valorisé à hauteur de 1 milliard de dollars. Mais le ton de sa principale chaîne déplaît manifestement au pouvoir du PiS, le parti droit et justice du Premier ministre Mateusz Morawiecki. La loi sur les médias a d'ailleurs fait exploser sa coalition. Le gouvernement n'a plus de majorité à la chambre basse, la diète, mais pour faire passer son texte mercredi soir, il a réussi à en trouver une, très courte mais réelle, retournant les 4 députés d'un tout petit parti anti-système. Si le texte finit par être entériné par le Sénat et promulgué, il devrait obliger le groupe américain Discovery à céder 51% de ses parts dans TVN à des investisseurs polonais, ce qui pourrait permettre d'infléchir clairement la ligne éditoriale de la première chaîne d'information du pays, ce qui était sans doute tout le but de la manœuvre.
Et Bruxelles dénonce à son tour ce projet de loi polonais et demande une loi européenne sur la liberté des médias. Au Japon, les cérémonies d'allumage de la flamme paralympique ont démarré ce matin à travers le pays en toute discrétion. Pas de relais classiques, mais des allumages dans tout le pays. Ces feux seront ensuite apportés à Tokyo pour ne former qu'une seule flamme. Début des Jeux paralympiques le 24 août. Bientôt, le retour des tartes à la Mirabelle. La récolte vient de commencer en Lorraine, du moins pour les variétés précoces. Pas forcément de gros volumes, mais de bons fruits. Thierry Collin, France Bleu Lorraine, s'est rendu dans un verger bio à Auchet, près de Nancy.
La récolte débute avec une cueillette à la main sur une échelle et il faut choisir les arbres les plus mûrs.
On prend les plus mûrs, c'est les plus beaux fruits.
C'est délicieux, hein. C'est très sucré, bien coloré.
Celui-là, on peut le faire.
Moussa, Elodie, Abdoulaye et Guillaume apprécient le décor du verger bio investi dès l'aube avec un fruit de qualité cette année.
Elles ont une belle couleur, elles ont un bon goût, le calibre est correct, c'est plutôt un bon début.
C'est pas physique, c'est technique.
Sans se mettre en danger aussi, parce que on peut toujours tomber, on essaie toujours de... Moi, je suis un peu du jour là, je veux tout attraper.
On sait qu'on risque pas d'avoir des résidus de produits chimiques parce que on travaille en t-shirt à main nue dans les arbres.
Bernard Mangin, arboriculteur qui s'est converti au bio il y a 10 ans avec 30 hectares de mirabellier, a des sols gorgés d'eau, mais les mirabelles n'en ont pas souffert. En volume, c'est 2 fois moins qu'une année classique, mais les fruits sont d'un gros calibre et le soleil à venir va faire du bien.
Avec le soleil, elle va gagner en sucre. La couleur a l'air de venir assez facilement. Puis je vois, elle est pas mal tachetée de rouge. Là, ça fait des mirabelles agréables à regarder. Le gros de la récolte, ça sera après le 15 août. Et là, on a beaucoup de saisonniers pour nous aider à récolter les fruits. Et le problème, on a beaucoup de saisonniers qui sont scolarisés au mois de septembre.
Une récolte qui devrait durer un mois avec des mirabelles bio plutôt rares qui vont trouver preneur, une vraie tendance pour la mirabelle sans pesticides qui semble se confirmer chaque année.
Reportage de Thierry Collin. Après un été bien maussade, la brusque envolée des températures affole les thermomètres records européens à Syracuse, en Sicile, où l'on frôle les 50 degrés. En France, vigilance orange canicule en Rhône-Alpes. À Orléans, depuis le retour de la chaleur il y a quelques jours, la base de loisirs Île Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc fait le plein. C'est un reportage de Justine Clou.
Les maillots et les serviettes de plage sont de sortie, la plage est noire de monde. Gemma profite du sable chaud pendant que ses enfants se baignent. Cette maman aimerait bien prendre quelques couleurs.
On aimerait bien, oui, parce qu'on est blanc comme never, on va dire.
Pour la crème solaire, la graisse à traire pour bronzer, on a tout prévu.
Enfin, l'été s'est fait désirer, mais il est là.
Hakim est moins branché bronzette, t-shirt et bob sur la tête, ce papa ne risque pas de prendre un coup de soleil. Il est surtout venu pour faire plaisir à ses enfants.
Là, j'accompagne les enfants, ils aiment bien aller à la plage. Je les surveille. C'est beaucoup de boulot.
En tout cas, la petite Camille, 3 ans et demi, s'éclate.
Ouais, moi je creuse un trou et je fais des châteaux de sable. Et même qu'on aille dans Yonazé avec nos petites bouées.
Beaucoup de familles profitent du retour du beau temps. Comme Sam, il est venu avec ses 3 enfants et il est super bien équipé contre la chaleur.
On est en train de boire une petite boisson bien fraîche. Nous avons un beau fauteuil et puis un beau parasol rouge et puis on profite du soleil.
Mais le plus chanceux sur cette plage, c'est certainement Adem. Ce collégien revient d'un mois de vacances dans le sud. Alors le soleil, il n'en a pas manqué.
Je suis venu nager, je suis venu profiter du soleil, même si je l'ai connu comme je suis parti en vacances. Et voilà, l'effet de groupe et tout, rigoler, ça fait plaisir.
Les nageurs sauveteurs rappellent tout de même quelques règles avant la baignade. Faire attention aux coups de chaleur et surtout bien surveiller les enfants.
Et le temps pour aujourd'hui dans un instant.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Elodie Calac, des orages dans le sud.
Oui, bonjour à tous. En effet, alors c'est ensoleillé dans le sud, mais ça tourne à l'orage. Alors, en ce moment, il y a des averses et des orages le long de la Garonne. En seconde partie d'après-midi et ce soir, on attend des orages forts du massif central vers les Alpes, avec des averses parfois intenses, de la grêle, des rafales de vent qui pourraient dépasser les 100 km à l'heure. Donc prudence, on a 9 départements en vigilance orange de l'est du massif central aux Alpes. Plus au nord, le soleil est là, avec un peu plus de nuages sur les côtes de l'océan, de la Manche, au nord de la Seine aussi. Les températures, elles sont en hausse, 22 à 27 degrés près de la Manche, ailleurs souvent 26 à 34 degrés. Et puis on monte d'un cran de l'Occitanie vers la Corse, la vallée du Rhône, 34 à 39 degrés attendus, jusqu'à 40 degrés sur la Provence. Je rappelle que la Drôme et les Alpes d'Haute-Provence sont en vigilance orange pour la canicule.